Primoz Roglic est toujours en jaune. Voilà pour l'essentiel de l'info, excellente matinée.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Fréquence Association. Cette semaine, deux sujets totalement différents, si ce n'est l'aspect solidaire. Dans un premier temps, nous allons parler d'une manifestation qui se déroule à partir de vendredi, au départ des terres, vendredi midi exactement. Il s'agit de Marchons pour Clovis, une manifestation organisée par l'association Le Regard de Clovis afin de sensibiliser le public à une maladie rare dont Clovis est atteint, le syndrome Treacher-Collins. Et dans un second temps, nous parlerons de l'association pour le développement de l'économie sociale et solidaire dans le bassin minier qui va créer une maison de l'économie sociale et solidaire à Lens, le Toit commun qui se veut être une véritable vitrine de cette économie dans le bassin minier. Mais tout de suite, place au premier sujet.
Chaque jeudi matin, à partir de 9h, Radio Plus vous propose des magazines et reportages. Vous faites partie d'une association ? Venez partager vos activités. N'hésitez pas à nous contacter au 09 52 22 22 07 ou sur contact@radioplus.fr.
Rémi Romelard, bonjour.
Oui, bonjour.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes
merci
le président de l'association Le Regard de Clovis. Clovis qui est votre fils, hein, âgé de 21 mois, et qui est atteint de ce syndrome Treacher-Collins, une maladie rare puisqu'elle touche un nouveau-né sur 50 000. On estime à 16 le nombre de nouveaux cas chaque année en France. Comment avez-vous découvert cette maladie ?
Alors, on l'a complètement découvert le jour de la naissance, en fait, au moment de la naissance. Pas du tout été vu avant pendant les échographies. C'était pas assez flagrant.
Alors, quels en sont les symptômes, les traits caractéristiques ?
Alors, traits caractéristiques, on va retrouver une déformation du visage, donc une mâchoire légèrement en retrait, des yeux tombants parce qu'il n'a pas, on n'a pas de fossettes et de pommettes qui permettent de tenir l'ensemble, et des oreilles déformées, voire inexistantes. Donc, et ça peut avoir un impact derrière pour tout ce qui va être respiratoire, parce que déformation aussi du visage, mais derrière est pareil, et aussi tout ce qui est déglutition. Et derrière, la continuité, ça va être aussi par rapport à tout ce qui est auditif. Donc souvent, on retrouve des cas de perte auditive ou clairement de mauvaise audition. Voilà.
Alors, cette maladie, elle a pour origine, je crois, des anomalies chromosomiques, hein, c'est ça ?
Ouais, tout à fait. C'est une anomalie chromosomique sur 2-3 gènes où on a des acides aminés qui sont échangés, qui créent cette déformation. En fait. C'est vraiment une mutation génétique.
Alors, quelles sont les conséquences de cette maladie pour votre fils au quotidien, Rémi Romelard ?
Alors, au quotidien, Clovis est sourd, donc il est équipé d'appareils auditifs. Alors, il n'y a pas du tout de conduit auditif, donc en fait, on ne se retrouve pas avec des appareils adaptés aux oreilles. En plus, il ne pourrait pas s'adapter parce que les oreilles sont déformées. On se retrouve avec un bandeau et des appareils auditifs qui permettent de travailler sur la résonance, car il y a encore les osselets dans le crâne qui sont existants. Des lunettes normales, et derrière le regard des autres, surtout parce qu'en fait on a un visage qui n'est pas entre guillemets normal, qui rentre pas dans les cases, et donc c'est surtout le regard de l'autre. Pour l'instant, lui ne se rend pas compte qu'elle est tout petit, il va avoir 20 mois, mais à terme c'est une des choses que souffrent le plus les personnes atteintes de ces choses-là, c'est le regard de l'autre.
À terme, votre fils va bénéficier d'interventions chirurgicales afin de supprimer autant que possible les malformations de son visage, c'est ça ?
Tout à fait, donc on va essayer de... Oui, tout à fait, donc il va avoir les premières interventions, on les décale à chaque fois pour les avoir le plus loin possible pour tant qu'il n'a plus, il ne rencontre pas de soucis, donc ça va être les premières interventions, ça sera la mâchoire. Et ensuite, sous les yeux, les pommettes qui permettent de maintenir l'ensemble. Et en premier temps, ça serait la mâchoire, la première intervention, et ensuite, il y a une tentative de réparation des oreilles qui pourrait avoir lieu.
Voilà, aussi avec la mise d'implants dans le crâne pour que Clovis puisse entendre également. Hein.
Tout à fait.
Alors, justement, Rémi Romelard, comment évolue cette maladie ? Est-ce que les symptômes peuvent s'aggraver ou est-ce qu'au contraire, il n'y aura pas de complications ?
Ah non, il n'y a pas de complications. C'est vraiment une naissance comme ça. Après, derrière, ça va suivre la croissance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de changement. Il peut y avoir que de l'amélioration par les interventions chirurgicales. Le seul souci, c'est la croissance. On ne sait pas comment les dents vont vraiment s'implanter et bouger en fonction de la croissance de l'ensemble du crâne. Donc, c'est pour ça que les interventions chirurgicales vont suivre la croissance de l'enfant. Si la croissance d'enfant se déroule bien, on recule au plus loin les interventions chirurgicales. Si à un moment, on se rend compte qu'il y a une gêne, la mâchoire, les dents vont gêner pour la mastication, par exemple, on va intervenir différemment. Pareil pour l'évolution de la respiration. Lui est beaucoup moins touché côté respiratoire que d'autres enfants. Tout suit l'évolution de l'enfant et l'évolution et la croissance de l'ensemble du crâne et du corps.
Alors nous sommes toujours en compagnie, hein, si vous venez de nous rejoindre, de Rémi Romelard, président de l'association Le Regard de Clovis, et qui nous parle donc de la maladie de son fils Clovis, hein, qui est atteint du syndrome Treacher-Collins. Alors pourquoi avoir justement décidé de créer cette association Le Regard de Clovis ? Il n'y avait pas d'association vers qui vous tournez en fait dans le secteur ?
Dans le secteur, il n'y avait pas. Alors il y en a une au niveau national qui s'appelait Colline, sur lequel on n'avait aucune réponse, aucun retour. Devant les médecins, on a la chance, nous, d'avoir un minimum de connaissances, un minimum de niveau social qui nous permet de suivre complètement Clovis et comprendre un peu les médecins et les suivis médicaux, et de savoir aussi s'orienter. Et en fait, on s'est retrouvé devant beaucoup, beaucoup d'interrogations, des médecins qui sortaient des livres devant nous pour comprendre complètement les besoins et les besoins médicaux. Et on s'est retrouvé seul. Donc on s'est dit, si ça arrive à d'autres, comment ça va se passer ? Si d'autres enfants, comment seront-ils suivis et accompagnés ? Donc ça pose aussi des problèmes. Et après, derrière, la méconnaissance de la maladie permet de ce syndrome. On s'est dit, on va monter une association pour lui, parce qu'on ne sait pas non plus comment ça va se dérouler, si derrière il y aura des besoins, on va dire, qui vont demander des coûts financiers assez importants, mais derrière, ça va aussi l'accompagner d'autres enfants. On va donner un exemple, un appareil de TIF coûte à peu près 3 500 €, il y en a besoin de deux pour les deux oreilles, et ça monte vite à 7 000 €, et donc d'autres familles pourraient peut-être pas avoir les moyens, avoir des suivis qui permettraient de permettre ça. D'être accompagné complètement, d'être perdu aussi, parce que clairement on se retrouve devant un bébé qui a une difformité, donc même si c'est notre enfant, on se pose quand même beaucoup de questions, et puis derrière c'est compliqué aussi de subir ce regard de l'autre continuellement, donc derrière on se dit que d'autres familles ou d'autres enfants pourraient avoir besoin de ça, de vous pouvoir parler, d'être soutenu, et derrière l'association c'est surtout aussi une intervention autour des jeunes, de faire comprendre que le paraître et le regard de l'autre, il faut le minimiser et accepter. Donc, c'était ça aussi.
Alors c'est la question que j'allais vous poser effectivement, hein, parmi les actions de votre association, il y a notamment ces interventions en milieu scolaire. Ce sont des interventions que vous faites du coup régulièrement.
Alors régulièrement, on avait commencé juste avant Covid, on avait commencé vraiment un travail avec un collège. Malheureusement, Covid est passé par là, donc ça s'est arrêté. Je vais reprendre cette année, je rencontre des professeurs dès lundi, dès la fin de la marche, je rencontre des professeurs sur un autre collège, où là pareil, il y a un travail qui va être monté. Le but c'était j'intervenais dans des classes de collège. Collège parce que c'est l'endroit, on va dire, où le regard est le regard, le paraître commence à devenir vraiment important. Et le but, c'est de les accompagner, leur faire comprendre et échanger avec eux sur, des fois, le regard, mais simplement sur, pas besoin d'uniformité, mais même sur un vêtement, on aborde tous les sujets autour du paraître et du regard de l'autre sur l'autre, pour vraiment travailler sur ça et avoir des réflexions autour de ça. Donc, alors, c'est sûr, sur une classe de 35, je ne vais pas toucher tout le monde, mais si j'en touche un ou deux qui me permettent d'avoir après un effet domino et aller voir et avoir l'impact ailleurs, ben, j'ai un peu gagné quoi dans ce combat-là.
Alors, votre association est également devenue la référente dans la région hein, pour cette maladie, hein, sur le portail Orphanet, hein, notamment un portail internet spécialisé dans les maladies rares. Et votre association s'occupe également du forum dédié à cette maladie sur le site Maladies Rares Info Service. Est-ce que vous avez justement beaucoup d'échanges et de demandes de ce côté avec d'autres familles?
Alors, on a échangé avec une famille lyonnaise il y a quelques mois. Où pareil, où l'enfant était né avec était diagnostiqué tardivement avec ce syndrome parce qu'il est pas entièrement reconnu. L'enfant est encore moins touché que Lovis, mais ça crée quand même des problèmes de surdité. Et en fait, une fente palatine qui était mal prononcée. Donc en fait, à partir de là, la famille était un peu perdue et s'est retrouvée devant un diagnostic qui a été posé quelques mois plus tard après la naissance. Et devant peu d'infos, donc en fait l'association a pu les accompagner en fait, et discuter. Ça a été surtout de l'accompagnement en leur indiquant, ben, écoutez, peut-être derrière, s'il est vraiment validé ce syndrome-là génétiquement, regardez le côté de la surdité, et c'est avéré que l'enfant était sourd et devait aussi être accompagné. Et vu que l'enfant ne réagissait pas plus que ça et que les suivis médicaux n'étaient pas plus poussés que ça, ben, en fait, il s'était pas rendu compte de certains points. Donc ça a pu en continuer sur certaines choses. Après, on a pu échanger avec une famille, alors une famille canadienne, pas du tout pareil.
D'accord.
Mais avec et là c'était plutôt voilà, ils ont pris contact, on a échangé sur les méthodes, on va dire médicales des deux côtés. Donc qui est une prise en charge différente outre-Atlantique qui permet d'avoir des informations aussi.
Vous diriez que c'est plus avancé outre-Atlantique, du coup?
Alors, on a une petite avancée outre-Atlantique parce que la famille avec qui on a discuté, l'enfant n'avait pas non plus de conduitif comme Clovis. Nous, pas en France, on n'en parle pas, une tentative de fabrication de conduitif. Là-bas, ils en parlaient. Donc, en fait, on a pu commencer à travailler et échanger avec les médecins. Alors, ils ont appris connaissance de la technologie, de la technique. Après, derrière, elle n'est pas encore aussi poussée en France et aussi poussée et aussi fonctionnelle. Alors, aux États-Unis, au Canada, ils n'ont pas vraiment encore de bons résultats. Donc, c'est pour ça qu'elle a du mal à arriver par chez nous. Puis derrière, en fait, Clovis, lui, pourra pas du tout en bénéficier parce que vraiment, il n'y a vraiment aucune trace, aucun point de départ, aucune arrivée. Donc là, par contre, pour en bénéficier, par contre, on a pu mettre en relation une équipe médicale et une équipe médicale de l'autre côté.
D'accord. Alors, on a évoqué effectivement en début d'interview la problématique hein, du diagnostic de la maladie. C'est un problème très fréquent hein, dans les maladies rares. Les médecins vous paraissent peu formés à la reconnaissance de ces maladies. Que faudrait-il faire selon vous?
Alors, c'est très compliqué parce qu'on est sur une maladie rare, comme on vient de le dire. On a quand même des spécialistes, hein. On a quand même des spécialistes sur l'île, on a au CHR de Lille, on a quand même bien équipé en termes de personnel et même d'équipement. Donc on a quand même des spécialistes à Lille, donc on a de la chance de ça.
Oui.
Mais derrière, petites maternités, les pédiatres de base, avant d'aller plus loin vers les spécialités, ne sont pas au courant, connaissent très peu en fait. Et donc les premiers rendez-vous se sont retrouvés plutôt avec un livre et une succession de symptômes qui permet de valider certains points. Donc en fait, c'est un manque de connaissances, mais on peut pas demander à un ensemble médical de connaître toutes ces maladies rares. C'est bien problématique. Par contre, de créer un lien entre les ensembles des équipes, c'est ça qui est le plus intéressant. C'est-à-dire en fait, les spécialistes entre eux, des fois, ne communiquent pas complètement. Donc le but, c'est vraiment de créer un lien complet. Et de mettre à jour aussi ces données pour au mieux accompagner, mieux accompagner psychologiquement aussi les familles.
Oui.
Parce que quand on pose le diagnostic derrière, on ne sait pas exactement à quoi s'attendre. Et il faut attendre plusieurs mois, voire plusieurs années pour vraiment avoir une vision complète sur la maladie, sur le syndrome et sur l'évolution ou non de des interventions chirurgicales et médicales d'accompagnement. Donc c'est pour ça qu'avec le regard de Clovis, on a créé un tableau dans le site. On a vraiment décrit tous les points avec des spécialistes, des médecins, on s'est travaillé ensemble. Et on a réussi à sortir une sorte de frise chronologique des différentes interventions possibles en fonction de l'âge de l'enfant et de la personne, avec un vrai suivi derrière médical. Donc ça permet d'avoir, de donner aux personnes qui, quand ils nous contactent, d'avoir une vraie visu complète des potentielles interventions. Et alors, ça peut faire peur, mais aussi ça rassure. C'est-à-dire, en fait, ça, d'un côté, ça fait peur. On sait que, clairement, on voit qu'il va avoir, il va avoir un vrai, comment, des interventions et des intentions répétées. Donc, ça fait peur. Mais en même temps, ça prévient les parents en disant, attention, là, vous allez rencontrer des problématiques, il va falloir assurer. Nous, on a la chance de rencontrer aussi un adulte qui était atteint de ce syndrome-là, avec son père, donc un adulte d'une quarantaine d'années, qui a fait des études, qui est prof, etc. Donc ça nous rassure, on a de la surdité, les retards que ça peut créer, les suites chirurgicales. Lui a réussi à avoir un travail et évoluer dans la société normalement. Par contre, le père, on l'a rencontré aussi, et le message a été tout de suite net, c'est je vais le dire de façon plus crûment, c'est Textos qui m'a dit, vous allez en chier, clairement. Donc lui, il va galérer et vous allez en chier. Donc c'est les choses-là qui nous permettent de dire, bon, même si on le prend comme ça crûment, on sait à quoi s'attendre et on sait comment évoluer. Et c'est aussi la chose qui est importante pour les parents, c'est voilà, on pose les bases, vous savez comment ça va se passer. Maintenant, il faut se tenir, il faut tenir, c'est pour ça qu'il faut aussi s'accompagner entre parents, s'aider, discuter, pour pouvoir accompagner au mieux l'enfant.
Alors, certaines de vos actions, hein, Rémi Romelard, sont spectaculaires, hein, comme ces 220 kilomètres parcourus l'an dernier à pied. Il faut dire aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent que vous êtes également un grand sportif, hein, coureur d'ultra-fond, d'ultra-trail, et vous tenez d'ailleurs un blog, hein, Ma Barbe en Balade, où vous racontez quelques-unes de vos courses. Alors, ce week-end et dès vendredi midi, ce sont 40 kilomètres, hein, que vous allez parcourir, et celles et ceux qui le souhaitent peuvent vous accompagner sur ce parcours, hein.
En fait, c'est un parcours de 40 km. Alors, ça peut paraître peu, mais en fait, le parcours va être parcouru pendant 48 heures. C'est-à-dire, je vais faire 40 km. Je vais tourner le plus possible, faire le plus de boucles possible de 40 km pendant 48 heures. Donc, je vais démarrer vendredi midi pour finir dimanche midi. Et je vais essayer de tenir le plus longtemps possible et de faire à peu près, on va tourner le plus possible autour de cette boucle de 40 km. Alors, cette boucle n'a pas été choisie au hasard non plus. On démarre des terres parce que c'est là où on habite et on va tourner dans les villages environnants autour des terres qui font partie de l'intercommunalité. Et en fait, c'est pour faire aussi comprendre, c'est l'endroit où lui va grandir, où Clovis va grandir. Donc, le premier message, c'est de faire passer ça autour de soi parce que l'année prochaine, il rentre à l'école. Et donc, le lien avec les enfants, le lien avec les adultes qui vont le croiser, eh ben, je trouvais que ça fort de faire un tour aussi autour de notre village pour dire, on est là, il va être là, vos regards, ben, vous les adaptez, vos enfants, vous leur expliquez, et on va évoluer ensemble, parce qu'il va être là pendant quelques années, parce que bon, je compte pas bouger des terres. Donc, derrière, c'est pour faire aussi comprendre que, on peut voir ça autrement, on peut accompagner les enfants, on peut leur sourire, on peut éviter de faire la grimace quand on voit l'enfant. On l'a déjà vécu il y a pas si longtemps que ça. Donc, c'est une façon de montrer, ben, on est présent, on peut en discuter, on est ouvert à toute discussion, mais il va être là tout le temps. Donc, maintenant, il va falloir aussi l'accueillir comme tout enfant citoyen, entre guillemets, dans votre village et dans vos vies. Voilà, c'est un peu l'idée.
Quelles sont les étapes de ce parcours, justement?
Alors, les étapes, je pars des terres vendredi midi, et ensuite, en passant par les petits chemins de campagne, je vais sur Sailly-sur-la-Lys, où là, pareil, dans chaque village, je passe devant chaque mairie, on mettra en place un barnum, une tonnelle, pour accueillir les personnes. Et ensuite, je vais vers Sailly-sur-la-Lys, Fleurbé, Laventie, La Gorgue, L'Étrême, Merville, et je reviens à Éterre. Donc, beau parcours.
Voilà. Et est-ce qu'il y a aussi, pour celles et ceux qui nous écoutent, des consignes particulières par rapport au coronavirus?
Bien sûr. Nous, sur chaque stand où on va accueillir du public, on aura du gel hydroalcoolique. On demande aux personnes d'éviter de respecter les distances, et ensuite de porter un masque pour se protéger au maximum et pour permettre de maintenir cet événement. C'est les premiers cas. Et puis si les personnes ont le moindre symptôme, ils peuvent nous accompagner à distance et éviter de venir pour tous se protéger et tous se respecter.
Le but, c'est aussi, j'imagine, de récolter des fonds pour l'association.
Oui, oui, les fonds, c'est pour, oui, c'est toujours pour plus tard, c'est pas pour maintenant. Aujourd'hui, on n'est pas dans l'urgence d'avoir des fonds. Par contre, on sait qu'à tout moment, on pourrait avoir des enfants, d'autres enfants avec des demandes ou des parents avec des besoins. Et donc, l'association crée aussi des fonds pour pouvoir aider à tout moment et subvenir aux aides à laquelle on pourra accompagner les familles. Donc, en fait, on demande aux personnes qui veulent participer à la course une petite participation. Elle est complètement libre. Mmh. Ça peut être d'un euro à autant. Et ensuite, ou bien, s'ils souhaitent, donc tous les deux, il y aura une tombola. Mmh. Donc, sur chaque point d'arrêt, on mettra en place, on a des grilles sur lesquelles on a eu des bolos par toutes les, on va dire, les commerces environnants qui ont joué le jeu, et ça, je les remercie. Et pour pouvoir proposer des lots très intéressants et faire une petite tombola qui permet de aux personnes qui souhaitent pas participer sur une course mais participer, on va dire, et avoir quelque chose dans les mains de jouer et de ramener aussi quelques deniers pour l'association.
Alors, où peut-on se renseigner pour participer à cet événement?
Alors, il y a la page Le Regard de Clovis, la page Facebook. Vous tapez simplement Le Regard de Clovis sur Facebook, ou il y a une page internet qui s'appelle leregarddeclovis.fr, tout collé, leregarddeclovis.fr, qui permet, qui relaie les informations. Alors, les informations principales, c'est les points de passage à peu près de vendredi, et ensuite, qui met le lien vers la page Facebook Le Regard de Clovis, sur laquelle on va communiquer pour donner les horaires samedi et dimanche, parce que je ne sais pas encore à quel rythme je vais courir pendant la nuit de vendredi à samedi, marcher plutôt, et je ne saurais pas, donc je ne sais pas exactement où je sais à quel point, donc on essaiera de prévenir régulièrement les personnes, parce que j'ai quand même l'équipe familiale qui me suit, qui va pouvoir communiquer à ma place.
Pour terminer, Rémi Romelard, comment peut-on aider votre association, le Regard de Clovis?
Alors, l'aide, elle peut être, comme on parlait des points financiers, l'aide, elle peut être aussi simplement de participer un peu à ce regard, de partager les événements, partager la page Facebook, mais aussi participer indirectement au regard de l'autre, à la communication autour de ça. Et on va faire un petit effet colibri, c'est que si tout le monde arrive à sensibiliser une personne, si tout le monde fait un peu sa part, on avancera très vite. Si tout le monde arrive à sensibiliser au regard de l'autre et à accepter l'autre dans sa différence, ça peut être tout, et ça peut toucher toute maladie, tout handicap, et accepter l'autre tel qu'il est, on fera déjà un sacré en avant, donc un petit effet colibri, chacun fait sa part, et on arrivera à faire beaucoup de choses.
Eh bien, merci Rémi Romelard d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes président de l'association Le Regard de Clovis. On vous souhaite évidemment bon courage pour cette marche de 40 km et que cette action puisse toucher un large public afin de sensibiliser à cette maladie, le syndrome Treacher-Collins, et aux maladies rares ainsi qu'aux handicaps. Merci à vous.
Merci à vous. Bonne journée.
Bonne journée.
Radio Plus, la radio. La radio de toutes les générations. Radio Plus, Radio Plus, la radio pas comme les autres.
Radio Plus, la FM que j'aime. Radio Plus.
Wow, 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 wow is me. Shame and scandal in the family. In Trinidad, there was a family with more confusion than you will see. There was a mama and a papa and a boy who was grown, who wanted to get a wife of his own. He met a young woman who he thought was nice, took her to his father to seek his advice. When the father see the girl, he said, "Oh no, that girl is your sister, but your mama don't know." Whoa, 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 it's me. Shame and scandal in the family. Whoa, 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 it's me. Shame and scandal in the family. Continued searching the rest of his life because he really needed a wife. He met
a wonderful girl with lovely figure, but was afraid to consult his dear father. He met this lovely darky, which was twice as nice. Again he flew to Papa to get his advice. When the Papa see the girl, he shouted, "Oh no! That girl is your sister, but your mama don't know.
Whoa, 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 it's me. Shame and scandal in the family. Whoa, 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 it's me. Shame and scandal in the family."
Mama, the mama shook she head when she found out what the papa had said. So she paused for a moment undecidedly. This time the boy was waiting quite patiently. Then the mama she laughed and she said, "Go man, go. Your daddy ain't your daddy, but your daddy don't know.
Whoa, 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 it's me. Shame and scandal in the family. Whoa, 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 it's me. Shame and scandal in the family." Whoa, 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 it's me. Shame and scandal in the family.
Relator avec Shame and Scandal in the Family. 9h passées de 30 minutes sur Radio Plus. On va s'intéresser à présent à notre second sujet. On va parler d'économie sociale et solidaire. Grâce à l'impulsion de l'Association pour le développement d'une économie sociale et solidaire dans le bassin minier, eh bien, cette économie va bientôt disposer d'une véritable vitrine à Lens, le toit commun, situé dans une des artères commerçantes de la ville, la rue René Lannoy. L'établissement, un ancien centre de bien-être et de relaxation, disposera à terme de 1000 mètres carrés avec un bar, un restaurant, un magasin solidaire, des bureaux qui seront loués par des entreprises de l'économie sociale et solidaire, mais également une salle de réunion. Et alors, l'association, vous allez le découvrir, possède une structure bien particulière. Elle ne possède en effet ni président, ni secrétaire, ni trésorier. Les décisions sont prises de manière collégiale par les 11 personnes issues d'associations et d'entreprises de l'économie sociale et solidaire. Nous allons entendre à présent un des membres de cette association, Laurence Zaderatsky, qui est administratrice de cette association. Elle est également présidente de l'association Culture et Liberté.
Alors l'association, au départ, il y a 2 ans, c'est des personnes qui se sont regroupées sur l'Association pour le développement de l'économie sociale et solidaire dans le bassin minier du Pas-de-Calais. Le titre était un petit peu long. Mais en tous les cas, c'était une volonté commune de se dire que l'économie sociale et solidaire, on en parle. Parfois, on en parle comme une économie de réparation, une économie de niche. Et pour nous, c'est vraiment pas ce sens-là qu'on veut à l'économie sociale et solidaire, mais c'est vraiment son développement. Et puis, que le sens, la valeur humaine, la solidarité, l'idée que l'économie soit au service de l'humain et d'un territoire, c'est ça qui nous a donné envie de nous regrouper. On part pas de rien, parce que dans ce territoire, il y a déjà, au travers un comité territorial de l'économie sociale et solidaire. Donc, pour certains, on est des acteurs, entre guillemets, de longue date de l'économie sociale et solidaire. Ça passe d'artisans du monde par CLIS 21, Culture et Liberté, la Ligue de l'enseignement, des AMAP, voilà, partenaire intérim, Émergent 62 qui aide donc des gens qui ont envie de créer leur entreprise. Voilà, c'est une mutualisation d'énergie, d'envie, de gens qui ont développé des expériences. Et puis des petits nouveaux qui arrivent et qui ont des idées de se dire l'économie, moi j'ai envie d'en faire, je veux en vivre. Donc voilà, économie au sens classique du terme. Mais j'ai envie que c'est du sens et de la valeur pour le territoire et pour moi. Donc ils se retrouvent dans ce qu'on est en train de porter là aujourd'hui pour ce projet de toit commun.
Alors, un projet qui s'est fait aussi sans forcément participation des pouvoirs publics, etc. Ça s'est fait en toute indépendance. Vous avez décidé donc d'acquérir ce lieu et d'en faire vraiment la vitrine de l'économie sociale et solidaire sur le bassin minier.
Effectivement, sur le toit commun, ce qui est important, c'est que c'est en regroupant nos forces, en étant indépendants, on regroupe des loyers. Et finalement, c'est pour permettre d'accueillir d'autres projets de l'économie sociale et solidaire sous une forme mutualisée ou de coopération. Et c'est vraiment l'idée qu'il n'y a pas que la pensée unique avec le capitalisme et les dividendes, mais il y a aussi partager les fruits des actions qui fonctionnent. Et donc, du coup, et puis s'enrichir de cela pour encore développer davantage et assurer toute l'activité, les actions que l'on mène, et bien qu'elles puissent être pérennes dans le temps, localement, qu'elles s'implantent localement et que du coup, et bien les gens, du bassin minier puissent en tirer bénéfice, puissent voir que c'est intéressant et utile et que ça peut se multiplier largement.
Alors, il va y avoir plusieurs phases de développement. Comment ça va se passer ?
Premier temps, c'est les travaux, d'abord. Voilà, vous avez visité les locaux, donc vous voyez qu'il y a encore un peu de travail à réaliser. L'idée, c'est aussi de travailler de façon à faire travailler les acteurs de la rénovation, de la réhabilitation des bâtiments, aussi eux avec les démarches de l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est la phase première, c'est de rendre accueillante cette maison de l'économie sociale et solidaire. Donc ça va être, voilà, ça va nous occuper tout de suite. L'idée, c'est une ouverture au printemps 2021. Alors avec les contraintes actuelles qu'on a autour des protocoles sanitaires, on va encore en avoir là aujourd'hui. Et puis dans une première phase, il y aura donc déjà des espaces de coworking, il y aura le magasin partagé, il y aura le bar, alors avec une petite activité restauration sur réservation avec les amis de l'association El Fouad, une vingtaine de places où il donc faudra réserver autour de deux plats, dont un végétarien. Puisque dans l'économie sociale et solidaire, la dimension environnement fait partie bien évidemment de nos préoccupations. Il y aura aussi des possibilités de faire des réunions et puis de rencontrer, d'être un centre ressources finalement pour rencontrer, si on a un projet autour de l'économie sociale et solidaire, rencontrer des gens qui pourront accompagner ces porteurs de projets et ces porteuses de projets. Ça pourra être aussi, l'idée c'est d'organiser des conférences débats, des conférences gesticulées, de faire événements en tous les cas de façon régulière autour de l'économie sociale et solidaire. Je pense que ça sera le premier temps. On aura donc, une fois les travaux finis, 800 mètres carrés à disposition des habitants du territoire pour l'économie sociale et solidaire. Et en 2022, on aura une deuxième phase qui, à terme, donc dans 3 ans, ça sera donc ce seront 1000 mètres carrés qui vont donner de la visibilité à cette économie qui a une revendication d'humanisme et de solidarité.
Donc ça veut dire des bureaux pour certaines de ces sociétés, de ces entreprises de l'économie sociale et solidaire, par exemple, des espaces de coworking, etc.
Oui, tout à fait. Alors, il y aura des associations et des entreprises qui seront là à demeure. Je pense à Partenaires Intérim, je pense à la FEV. voilà, pour dans un premier temps. Et puis après, toute personne qui a besoin à un moment de se poser parce qu'il y a besoin de réunion, parce qu'il y a besoin de rencontrer des partenaires, par exemple, pour monter un projet, on ouvrira nos portes, bien évidemment. Alors, la condition, entre guillemets, que l'on fixe pour les gens qui seront, à partir du moment où on entre dans la maison, on devient acteur et actrice de cette maison, à partir donc de valeurs qui devront être quelque part adhérer à une certaine idée de l'économie sociale et solidaire. Donc ça sera ça le contrat qu'on peut avoir avec les gens qui viendront dans cette maison.
C'est-à-dire qu'une charte a été créée spécifiquement pour ce lieu avec qui reprend donc des valeurs de l'économie sociale et solidaire, mais en allant parfois un peu plus loin que ce qui est entre guillemets prévu hein, habituellement.
Alors l'idée c'est d'aller au-delà de la fameuse loi de l'ESS de 2014, dite loi Hamon. Les labellisations ESUS pour nous ne sont pas suffisantes, ne vont pas assez loin dans l'exigence autour de l'environnement, l'économie au service de l'humain.
Alors, si vous pouviez m'expliquer, labellisation ESUS.
Entreprise solidaire d'utilité sociale.
Et donc, les marqueurs pour nous dans cette charte d'éthique, c'est de dire qu'on veut une société inclusive où chacun est reconnu et attentif à la place des autres. On s'engage à lutter contre le racisme, contre toute forme de ségrégation, de discrimination. Envers toutes et tous, et en particulier les minorités visibles. Le toit commun promeut un monde sans frontières, quelles qu'elles soient. Il veille à ce que ce soit un lieu ouvert à toutes et tous, accueillant, quel que soit son statut, sa condition sociale. Le toit commun, c'est aussi la promotion de la laïcité. Alors la laïcité, elle n'interdit pas. C'est le respect de la liberté d'expression, la liberté aussi de croire ou de ne pas croire. Voilà, c'est cette idée-là qui sera dans cette maison. Pas de prosélytisme, bien évidemment, quel qu'il soit. Le toit commun, c'est la coopération. Ça, c'est la base pour nous. Le toit commun, c'est aussi la transparence sur son fonctionnement, sur son financement. On l'a évoqué précédemment. Et puis, le toit commun, c'est... On sera très attentif sur notre empreinte écologique. Il y a un vrai enjeu que ce soit quelque chose qui soit intégré au quotidien et que ça devienne des automatismes sans qu'on ait plus besoin d'y réfléchir et de le penser. Et puis, il y aura toujours des innovations à trouver. Donc, c'est ce cadre-là qu'on a fixé pour... et ce sera donc les membres de l'association qui seront aussi vigilants et attentifs à ce que ces compétences-là et ces valeurs-là soient bien à l'œuvre.
Comment votre indépendance va-t-elle être garantie ?
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a un système de loyer qui viendra garantir le fait, parce que pour acheter cette maison, il y a eu un emprunt de fait. Pour couvrir cet emprunt, il y a donc des loyers qui sont payés par un certain nombre de structures. Les espaces de coworking, il y aura aussi là une rentrée en recette. En recette, on aura aussi l'activité du bar avec la convivialité. Et puis, on fera aussi appel, bien évidemment, au financement qu'on appelle aujourd'hui participatif pour plus largement.
Et sur le plan politique ?
Alors pour nous, on est là-dessus, à partir du moment où il y a le respect des valeurs précédemment données, on n'est pas là pour être un parti politique, on est vraiment acteur de l'économie sociale et solidaire. Donc les idées politiques, on en a forcément, puisque les valeurs que je vous annonçais sont éminemment politiques. Par contre, si on parle de politique politicienne, ça c'est clair que ça n'aura pas sa place ici.
Poser les questions surtout par rapport au territoire, aux agglomérations, etc., qui peuvent également participer à ces structures. Et j'ai entendu parler tout à l'heure d'une limitation de 5% au niveau du pouvoir qu'on pourrait avoir dans cette structure.
Cette structure, son fonctionnement, il régit sur le statut juridique de la société coopérative d'intérêt collectif, qui prévoit très clairement que les pouvoirs publics peuvent être présents à hauteur maximum de 5%. Donc voilà, on n'est pas absolument contre les politiques, puisque de toute façon, les politiques font le commun, et c'est important de faire du commun. Mais dans cette maison, pour son fonctionnement, on s'est fixé cette règle-là.
L'ambition à terme, c'est quoi ?
L'ambition, c'est déjà de donner une visibilité vraiment à l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est vraiment l'ambition première, que chaque habitante et habitant de ce territoire se dise que l'économie sociale et solidaire, ça peut être son projet de vie, soit en termes de sa propre activité économique, soit en termes d'engagement citoyen, parce que c'est un engagement citoyen extrêmement fort, et puis un enjeu de démocratie pour ce territoire, parce que l'économie sociale et solidaire, elle dit « chacun compte pour un ». Et ça, je pense que c'est une belle ambition pour notre territoire.
À l'instant, Laurence Zaderatski, administratrice de l'Association pour le développement de l'économie sociale et solidaire dans le bassin minier, également présidente de l'association Culture et Liberté. Thierry Delattre, à présent, est bénévole au sein du Toit commun. Il va, lui, s'occuper du magasin solidaire qui sera présent donc dans cet établissement, le Toit commun. Il nous explique les grandes lignes de ce qu'il va faire.
Donc, en fait... Je vais m'occuper de la partie magasin avec Hélène Maréchal, donc la directrice de Vestali. Sur la partie plus boutique, je vais, dans la mesure du possible, proposer des produits à la vente issus de mon projet d'aquaponie. Parce que je vais produire des plantes aromatiques principalement. Et je vais pouvoir, en les séchant, tout ça, en les transformant, pouvoir... les vendre dans la boutique sans pour autant avoir la contrainte des produits frais.
Alors Thierry Delattre nous explique ce qu'est précisément l'aquaponie.
L'aquaponie, c'est la production de poissons, donc l'élevage de poissons. On récupère l'eau en fait qui est souillée par les poissons, qui est diffusée dans des bacs de culture, donc hors sol, et on met des plantes sur des radeaux flottants. Et donc les plantes consomment les nutriments produits par les poissons et se développent de cette façon. Actuellement, je suis en phase de test, donc je ne vais pas produire des plantes entre guillemets gourmandes en nutriments. Le temps que le système se mette en place, que ce sera principalement des plantes aromatiques, donc des petites plantes qui ne consomment pas beaucoup de nutriments pour pouvoir stabiliser le système pour ensuite... dans la deuxième phase de test, mettre des plantes plus gourmandes.
Thierry Delattre nous explique ce qui l'a séduit dans ce projet, le Toit commun, et dans l'association de développement de l'économie sociale et solidaire du bassin minier.
Ce qui m'a séduit dans le projet, c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai bénéficié d'associations relevant de l'ESS, mais avant ça, je ne connaissais pas du tout. Il n'y a pas de visibilité. Les gens ne savent pas ce que c'est. Les gens, j'en ai eu besoin, mais je ne savais pas que ça existait. Et je suppose qu'il y a énormément de gens dans mon cas, surtout dans le bassin minier, qui ont des besoins, qui ne savent pas forcément mettre de mots sur ces besoins, qui cherchent peut-être des gens pour mettre des mots sur ces besoins et y répondre. Donc c'est ça, en fait, le but de... du Toit commun, c'est de pouvoir, grâce à l'université populaire, de pouvoir informer les gens sur ce que c'est que l'économie sociale et solidaire, dans le but de les aider, de développer les gens, parce que il y a des gens qui ont des projets. Un Français sur trois a un projet de création d'entreprise, par exemple, et ne franchissent pas le pas parce qu'il y a trop d'interrogations, d'idées reçues qu'il faut briser pour pouvoir développer des projets. Et c'est ça, en fait, le Toit commun, de pouvoir proposer aux gens des réponses à ces questions.
Thierry Delattre, donc, qui s'exprimait au micro de Radio Plus et qui fait partie également de cette association pour le développement de l'économie sociale et solidaire dans le bassin minier. Marcel Delcroix fait également partie de cette association, hein, qui justement va mettre en œuvre ce projet du toit commun, hein, qui, je vous le rappelle, sera eh bien une maison de l'économie sociale et solidaire située rue Casimir Bonnier à Lens. Hein, ce sera effectivement, comme vous l'a expliqué Laurence Zaderatsky tout à l'heure, eh bien effectif l'an prochain, hein, au premier semestre 2021. Alors, Marcel Delcroix nous explique tout d'abord ce qu'est Émergence 62, puisqu'il représente également une association, donc Émergence 62, qui justement propose eh bien aux personnes de créer leur entreprise ou leur association.
Donc, Émergence 62 est une association qui a été créée en 1991. Moi, j'y suis depuis 93, et donc l'idée de départ, c'était de mettre des compétences économiques au service des réseaux sociaux. Il y a 27 ans, c'était le RMI qui se lançait avec des ateliers chantiers d'insertion, des entreprises d'insertion. Et donc, c'était le président fondateur qui était président aussi d'un organisme de formation, avait identifié qu'il y avait des gens qui avaient du savoir professionnel, par exemple à menuiser, etc., mais qu'ils avaient besoin d'être accompagnés pour la gestion, si on lançait une entreprise ou une association d'insertion, voilà. Et donc, ce fait s'est développé, et quand il a été sollicité une subvention au conseil départemental maintenant, pour savoir s'ils accompagnaient dans cette idée-là, ils ont dit oui, si vous accompagnez des créations d'associations, mais aussi si vous accompagnez des bénéficiaires du RSA pour l'époque, et puis ensuite, bon, ça s'est agrandi. L'idée, c'est de recevoir tout public, et en quelque sorte, après, on s'organise, puisqu'on offre un service gratuit, on le met dans la case qu'il faut par rapport aux subventions que l'on va chercher. Et donc, en proposant tout type d'activité, c'est d'identifier aussi des porteurs qui, ben, peu à peu, on a évolué vers l'économie sociale et solidaire. Et donc, d'orienter des porteurs qui ont une sensibilité plus humaine, plus solidaire et sociale. Et dans ce cas-là, ben, ça permet d'orienter cette approche-là. Donc, on accompagne, par exemple, le café des enfants Nino Kid à Liévin, le garage solidaire de Lens. Il y a une épicerie sociale aussi. Bon, là, c'est pas sur le territoire, mais sur Vitry. Donc voilà, donc on travaille aussi, on a accompagné des MAM aussi, des maisons d'assistantes maternelles. Et donc c'est sur des projets collectifs. Après, quand on a des porteurs plus individuels, on leur présente aussi le dispositif des coopératives d'activité et d'emploi, comme Connexion sur Lens ou Multicité sur Arras. Donc voilà, donc on essaye de présenter un peu tous les dispositifs qui mettent plus, protègent peut-être un peu plus l'humain. Bien entendu, il faut... que le projet soit viable, etc. Donc ensuite, quand les personnes viennent, on travaille d'abord le projet avec la personne en essayant de lui donner de l'autonomie au maximum, que ça soit elle qui fasse, puisque ça sera elle après qui sera responsable de sa structure ou de l'entreprise. Et puis on accompagne pendant 2 à 3 ans après, s'il y a création. Donc l'avantage, c'est que, bien sûr, on se documente sur les évolutions de dispositifs et de réglementations juridiques ou fiscales ou sociales. Et donc, mais on est aussi dans le cas concret, en accompagnant les gens, ben, finalement, nos compétences, elles profitent aux bénéficiaires qui veulent créer. Et ensuite, si le projet est viable, eh bien, on peut les accompagner pour des demandes de financement. Ou prêt d'honneur avec Initiative Goël ou Germinal, et puis ensuite si un dossier est fait, il est aussi pour un prêt bancaire peut-être du même montant, enfin selon les critères, les statuts, et ou alors des demandes de garantie avec pas de calais actif.
Alors, Marcel Delcroix nous explique à présent la raison pour laquelle il a rejoint ce projet.
Pour moi, c'est quasi une logique, puisqu'on accompagne des projets dans l'économie sociale et solidaire. Il y a une dynamique qui se crée pour être plus visible au niveau de la CAL avec le toit commun, CAL et CAC. Et donc, du coup, je dirais presque, c'est presque aberrant si je ne suis pas présent, quoi. C'est, puisque ça fait partie de mon réseau, ça fait partie, enfin, du réseau d'émergence de notre activité, et donc je serai un peu, enfin, l'animateur sur la communauté de l'accompagnement des projets ESS en essayant de faire travailler tous les partenaires qui sont dans le réseau et qui sont plus associés. Voilà, si un importeur de projet qui est intéressé par une coopérative d'activité et d'emploi, ben on l'orientera là. Si c'est une coopérative type SCOP, on verra avec l'URSCOP. Enfin voilà, comme on travaille déjà maintenant, mais dans un lieu qui s'affiche, quoi, maintenant.
Marcel Delcroix nous explique à présent son rôle dans ce projet.
Alors accompagnement, mais pas que moi, ou orienté. Donc on va faire un groupe pour effectivement chacun peut avoir des spécificités. Et puis ensuite, comment dire, mais d'animer effectivement le groupe des porteurs de projets. Et puis par rapport à la charte des valeurs et à l'éthique, donc enfin la charte éthique donc du toit commun, savoir les projets qui seront accompagnés davantage ou pas, quoi. Voilà.
Et Marcel Delcroix revient également sur le fonctionnement particulier de l'association.
C'est un fonctionnement collégial. Déjà pour l'association de développement donc de l'économie sociale et solidaire du bassin minier, qui a été créée il y a 2 ans, ça a été compliqué à faire comprendre à la préfecture qu'il n'y avait pas un président, mais il y avait un bureau collégial qui gérait l'association. On peut le faire, mais ils n'avaient pas l'habitude de voir ça, donc du coup, fallait faire avancer dans les idées, quoi.
Voilà concernant eh bien ce projet, le toit commun, qui va voir le jour en début d'année prochaine, si tout va bien, si les travaux avancent bien, rue René Lannoy à Lens. On remercie également bien sûr les participants qui ont répondu à nos questions. Je vous retrouve bien évidemment la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouveau numéro de Fréquence Association. D'ici là, portez-vous bien. Sachez évidemment que vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Radio Plus, le www.radioplus.fr, en podcast. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec le magazine Microscope, magazine des radios associatives du nord de la France. À très bientôt.